Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on va parler d'une date assez fascinante, le 12 juin. En Russie, la place rouge s'illumine, il y a des feux d'artifice, bref, c'est la fête nationale. Mais en fait, cette date marque l'élection de Boris Eltsine en 1991, l'événement exact qui a précipité la chute de l'URSS, une chute que le pouvoir actuel qualifie, je cite, de plus grande catastrophe géopolitique du siècle.
C'est quand même fou, non? Pourquoi un régime célèbre l'arme qui a détruit son propre empire? C'est tout le paradoxe de cette élection, la toute première au suffrage universel direct de l'histoire russe.
Exactement. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce que représentait réellement ce vote. Pour moi, ce scrutin a conféré une légitimité populaire incontestable à Eltsine. C'est une rupture historique, absolument fondatrice pour la liberté russe.
Oui, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec cette lecture idyllique. Je dirais plutôt que cette élection reposait sur un malentendu fondamental. Ça a créé de toutes pièces un pouvoir colossal, oui, mais totalement dépourvu de garde-fous institutionnels.
Ah, je m'y attendais. Mais reprenons les chiffres officiels. En 1991, ça fait des décennies que la Paris communiste désigne ses dirigeants en vase clos.
Bien sûr.
Et là, l'élection d'Eltsine brise cette inertie brutalement. Je veux dire, il part à la rencontre des foules, il va dans les usines et il l'emporte dès le premier tour avec 57% des voix. Face à lui, on a Nikolaï Rychkov.
Le candidat soutenu par l'establishment.
Voilà. Et il s'effondre à 17%. C'est la première fois qu'un dirigeant russe tire son autorité du peuple et non d'un parti. C'est énorme.
C'est énorme sur le papier, ouais. Mais sur le terrain, ce vote populaire a surtout installé une véritable bombe à retardement systémique. Il faut se rappeler que la Russie de 1991 n'a aucune tradition parlementaire.
C'est vrai, elle sort à peine des décombres de l'État-parti.
Absolument. Du coup, cette élection crée instantanément deux pouvoirs légitimes concurrents sur le même territoire. On a Eltsine d'un côté, avec sa toute nouvelle légitimité démocratique, et de l'autre, Mikhail Gorbatchev.
Le président de l'Union soviétique.
Oui, et qui, lui, n'a jamais affronté le suffrage universel direct. Sur le terrain, ça s'est traduit par une paralysie totale. Les fonctionnaires recevaient des ordres contradictoires.
Ouais, l'économie stagnait parce qu'on ne savait plus à quelle loi obéir.
Exactement. Donc la démocratie ne naissait pas vraiment, c'était plutôt une guerre de tranchées administrative.
Mais attendez, cette dynamique, aussi chaotique soit-elle, a permis de sauver l'État face au retour de l'autoritarisme. 2 mois après le scrutin, on a le putsch d'août 1991. Les conservateurs tentent de reprendre le contrôle. Et là, Eltsine monte sur un char devant la Maison-Blanche de Moscou, le siège du Parlement. S'il parvient à rallier l'opinion et à faire basculer l'armée en 3 jours, c'est uniquement grâce à ce mandat populaire inédit.
C'est une belle image, c'est sûr.
Mais c'est plus qu'une image, hein. Il incarne la liberté face au char, précisément parce qu'il incarne le vote.
Je nie pas la force de ce moment, mais cette même force populaire est très vite devenue un poison destructeur. Regardez les événements d'octobre 1993.
Ah, on y vient.
Quand même envoyer l'armée bombarder la Maison Blanche. Son propre Parlement. Sans contre-pouvoir, ce mandat démocratique est juste devenu le prétexte idéal pour anéantir les institutions.
Oui, mais le vote de 1991 n'avait pas pour vocation de créer un État fonctionnel de bout en bout du jour au lendemain. En fait, c'est comme s'ils avaient mis un moteur de Formule 1, la puissance brute de la légitimité populaire, sur un châssis en carton.
Un châssis très fragile, on est d'accord?
Voilà. Sans institutions solides pour absorber et répartir cette force de traction, la sortie de route de 1993 était presque mathématique. Mais le moteur démocratique était authentique. Ce sont juste les freins qui manquaient.
Sauf que ce moteur a surtout fini par exploser en vol. Et c'est là qu'on arrive à la contradiction béante du régime de Vladimir Poutine aujourd'hui.
Il puise sa légitimité dans cette déclaration de souveraineté. Mais il en rejette viscéralement les conséquences. Je veux dire, célébrer le 12 juin tout en écrasant systématiquement l'opposition, ça prouve bien que l'essence démocratique de 1991 a été totalement vidée de son sens.
Je vous accorde que la parenthèse s'est refermée. La compétition ouverte a disparu en Russie, c'est un fait indéniable. Mais l'acte fondateur du vote libre reste quand même un jalon historique.
Vous trouvez vraiment? Oui, le fait que le suffrage universel ait dicté l'avenir du pays, avec ce score écrasant face à l'appareil communiste, ça prouve que le changement par les urnes a bel et bien existé, ne serait-ce qu'une fois.
Mais la tragédie réside justement dans cette illusion. Les Russes ont cru qu'une démocratie était viable par le simple fait de glisser un bulletin dans une urne.
Sans l'ingénierie politique derrière.
Exactement, sans rien pour la protéger. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, la grande majorité de la population n'associe plus du tout les feux d'artifice du 12 juin à sa première élection libre.
C'est un constat difficile. Au final, la leçon brutale de 1991, c'est que l'élection n'est pas la démocratie. Le vote sans les institutions, ce n'est pas la liberté.
Non, c'est simplement le droit de choisir son prochain autocrate.
C'est une conclusion sévère, mais juste. Nous laissons nos auditeurs méditer sur ce paradoxe de la souveraineté. Merci de nous avoir suivis.